Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Rarement ai-je eu entre les mains un livre qui, d'une page à l'autre, peut susciter autant de réactions contrastées. Il se trouve que je l'ai lu dans un train, et rien qu'en regardant mon visage, mes voisins ont dû se demander avec curiosité comment un dictionnaire pouvait visiblement me faire passer d'une moue dubitative à une vigoureuse approbation, d'un sourire amusé à un hoquet d'indignation, d'un haussement de sourcils offusqué à un éclat de rire jubilatoire. Entre repas sur le pouce, écrivains et artistes à l'index et humoristes majeurs, Nicolas Destiendorf nous livre son dictionnaire amoureux du mauvais goût. Il est publié chez Plon et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Nicolas Destiendorf.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, lauréat du prix Roger Nimier, deux fois finaliste du prix Interallié. Vous êtes aussi journaliste, petit-neveu du résistant Honoré Destiendorf, qui a sa station de métro à Paris, à côté de l'église Trinité. Et c'est votre deuxième dictionnaire amoureux. Le premier, vous l'avez consacré à Paris. On va peut-être en parler dans un instant. Alors un dictionnaire amoureux, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est toujours subjectif. Mais alors là, celui-là, il est peut-être encore plus subjectif que les autres, ne serait-ce que parce que la définition essentielle, la définition du mauvais goût, elle est très personnelle. Quelle est la vôtre ?
En fait, elle n'existe pas. J'ai passé 600 pages et 200 articles, quelque chose comme ça, à essayer de définir cette notion qui, par essence, n'existe pas, puisque le mauvais goût, c'est celui de l'autre, ou alors c'est celui qu'on le croit avoir soi-même. Il y a autant de mauvais goût que d'individus sur cette planète, autant dire beaucoup. Mais ce qui était amusant, c'était de m'instiller de m'infibuler entre les gouttes du goût officiel. Pour moi, le mauvais goût, disons que je divise en deux camps. Il y a le mauvais goût que j'aime, que je défends, qu'on pourrait appeler peut-être le kitsch, et le mauvais goût que je n'aime pas, que je brocarde, que j'aborde, qui serait peut-être ce qu'on pourrait appeler la laideur, mais c'est déjà très complexe. C'est-à-dire que c'est une sorte de dictionnaire amoureux de ma propre sensibilité esthétique, de mes jubilations, vous l'aviez dit, et de mes détestations.
Alors c'est vrai qu'en plus, vous faites la distinction entre les deux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a dans le dictionnaire des entrées identifiées par un cœur pour désigner le mauvais goût que vous aimez. Et le mauvais goût que vous détestez, eh bien vous avez affublé les entrées en question avec un pic. La différence entre ces deux catégories, c'est vous en fait qui l'avez décidé de façon autoritaire.
Ah bah, c'est un livre d'une totale mauvaise foi et d'une totale sincérité en même temps. Ce qui est le principe de cette collection, c'est un abécédaire subjectif d'un sujet dans lequel je me suis plongé avec plaisir et avec une liberté de ton complète. Et je dois dire que la Maison Plon m'a laissé faire absolument ce que je voulais et ça devient une chose très très rare de nos jours.
Donc livre partial, on l'a compris. Alors l'interview qui commence le sera aussi forcément puisque j'ai eu le bon goût, le mauvais goût, je ne sais pas, de faire ma sélection à moi parmi la vôtre. Et je voulais commencer par un souvenir historique dans tous les sens du terme. Nous sommes le 4 décembre 77 à Bangui en Centrafrique.
Dans quelques instants, Jean Bedel Bokassa va devenir Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. Inspiré des fastes du premier empire français, la pompe centrafricaine se traduit d'abord par la tenue de Bokassa Ier. Aube grège, faite de perles incrustées de diamants, couronne de laurier d'or. Dans un silence total, le souverain va poser lui-même la lourde couronne impériale sur sa tête. Venue spécialement de France, la musique principale des troupes de marine jouera la marche impériale. Ce sont les musiciens de l'ancienne coloniale qui a compté dans ses rangs le capitaine Jean Bedel Bokassa. L'impératrice Catherine, tout comme Joséphine, elle s'est agenouillée devant l'empereur qui l'a couronnée. Elle porte une robe d'or incrustée également de diamants. Et puis, le petit prince héritier, Jean Bedel Bokassa Junior, stoïque malgré l'insouciance que lui autorise son âge. Regardez. Il a 3 ans. Dans la salle du palais du couronnement, les délégués de plusieurs pays. C'est le ministre de la Coopération, Robert Gallet, qui représente la France. Ce sera une longue journée de fastes, de festivités, de chants et de cadeaux. Celui, par exemple, offert par Valéry Giscard d'Estaing, un sabre de l'époque napoléonienne.
Voilà, archive de la chaîne de télévision française Antenne 2. Alors ce sacre de l'empereur Jean Bedel Bokassa, Pour vous, Nicolas Destiendorf, c'est un petit peu un Everest, un Kilimandjaro du mauvais goût.
C'est une sorte d'apothéose du mauvais goût géopolitique. C'est-à-dire qu'en plus que la France ait joué le jeu, en fait le mauvais goût est presque plus du côté français que du côté centrafricain, que la France ait joué le jeu, ils ont envoyé la musique, Giscard a fait des cadeaux, tout le monde s'est engouffré dans cette espèce de simulacre, de parodie de sacre, ça reste un témoignage extraordinaire. Et quand on voit le film de Werner Herzog, Écho d'un sombre empire, on se rend compte de l'absurdité de tout ça. Et en même temps, pour des raisons purement mercantiles et d'une hypocrisie complète, on a entretenu cet individu et son pays dans une espèce de flou artistique ou de mensonge permanent. Et là, franchement, on est vraiment dans le mauvais goût, oui.
Alors, vous avez retrouvé, évidemment, j'imagine, les archives télé comme nous, hein, pour pouvoir rédiger ce dictionnaire amoureux du mauvais goût. Comment est-ce que vous avez procédé ? Parce que vous êtes allé chercher, vous avez creusé dans votre mémoire, vous avez demandé autour de vous, comment vous avez travaillé ?
Alors, c'est totalement, totalement intime et personnel. J'ai fait une liste, tout simplement, de ce qui... En fait, je me suis promené dans ma bibliothèque, dans ma discothèque, dans ma vidéothèque et tout ça. Et
dans la vôtre exclusivement ?
Uniquement exclusivement, c'est vraiment le principe de cette collection. C'est une sorte de portrait en creux par mauvais goût interposé, si je puis dire. Donc, j'ai listé de A à Z tout ce qui pouvait aller, ce qui pouvait titiller ma sensibilité esthétique ou anti-esthétique. Donc, on va d'Andouillette à zone d'activité commerciale, d'Andouillette qui est mon plat favori, à zone d'activité commerciale qui, pour moi, ce sont ces structures qui ont été un peu les fossoyeurs de la France rurale. Et je me suis promené. Il y a des choses qui m'inspiraient trois lignes, des choses qui m'inspirait 10 pages, et je me suis laissé aller. Surtout, je ne me suis imposé aucune censure. C'est ça qui était amusant. On me disait, au pire, on me coupera, mais je me permets de dire ce que je n'ai jamais pu dire ailleurs.
Alors, l'andouillette, justement, puisque vous me tendez la perche, si j'ose dire, Nicolas Destiendorf, vous connaissez la phrase d'Édouard Herriot, l'ancien président du Conseil de la Troisième République, ancien maire de Lyon.
Absolument, parce que pour que l'andouillette soit bonne, il faut que ça sente toujours un peu la merde. C'est quelque chose comme ça.
La politique, c'est comme l'andouillette, voilà. Ça doit sentir un peu la merde, mais pas trop quand même.
Absolument.
Vous confirmez ?
Absolument. Oui, je vous avais même un peu déformé. Ça parle à mon cœur, l'andouillette. C'est mon plat favori. C'est à la fois une sorte de profession de foi gastronomique, esthétique, tripière. Depuis toujours, c'est quelque chose qui est clivant. C'est pas quelque chose qu'on aime un peu. Soit oui. On adore, soit on déteste. Oui. Et donc, pour moi, c'est une sorte de test. Vous aimez l'andouillette ? Oui, non, hop, je classe l'humanité en deux camps. Et on m'a toujours dit, ah, t'aimes ça ? C'est quelque chose qui provoque un rejet. Donc, c'est un mauvais goût que j'aime et que les autres n'aiment pas. Voilà.
Les monsieur très très important, au pantalon très cher avec pas grand chose dedans, à toutes les dames très très importantes, au brushing très broché pour bien couvrir leur lente, à tous les très parfumés, à toutes les très poudrées, à toutes les reins sur le côté, à tous les ongles bien limés. Ont l'air d'oublier que quoi qu'il en soit et qu'ils le veuillent ou pas, ils sont comme toi, et toi, et toi, et toi, et toi, et toi, et moi, et comme toi, et comme toi, et comme moi, ils font tous caca. Le matin, on dirait que t'as mangé un rat. T'as beau mettre du rouge sur ta bouche, ça peut être très joli. Tu mets quand même dedans ce dont sert ton mari pour faire pipi. Même si tu portes des chaussures en croco, dans la rue, toi aussi tu marches dans du vomi de clodo. Même si tu ne portes que de la dentelle et jamais de viscose, toi aussi ça te gratte quand tu as des mycoses. Parce qu'au fond, vous êtes comme toi, et toi, et toi, et toi, et toi, et toi, et moi, et comme toi, et comme toi, et comme moi.
Dans VMDN sur RFI, et ce qu'elle dit est absolument incontestable, Nicolas Destiendorf. Alors, chanteuse, guitare-voix, dont on a déjà parlé dans cette émission, c'est jamais facile de parler de Giedrey dans une émission de radio, en tout cas, je vous le confirme. En tout cas, vous saluez l'écriture de ces textes.
Je salue l'écriture, je salue la personnalité, je salue même la démarche esthétique. Elle est d'une rare cohérence artistique depuis le début. Moi, je l'avais rencontrée, elle faisait la première partie d'un concert de Didier Super au Bataclan en 2011. J'avais entendu cette chanson, je ne la connaissais pas. J'ai vu, elle a l'air d'une ravissante petite poupée Barbie déguisée en nymphette ou en schtroumpfette. Et elle raconte des horreurs extraordinaires.
Oui, on lui donnerait le bon Dieu sans confession.
Absolument, oui. C'est comme je disais, c'est Brassens à la tronçonneuse. Et j'ai adoré ça. Et ensuite, je suis rentré en contact avec elle, j'ai fait une interview, on est même devenus amis, et pour moi, elle incarne une certaine idée du mauvais goût, c'est-à-dire cette frontière extrêmement subtile entre le raffinement, même l'élégance, et presque l'ordure, et la gêne, l'embarras. Et elle fait ça avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle et artistique.
Alors, on fait tous caca, c'était le titre de la chanson.
Ah, je ne vous le fais pas dire, on en
voilà.
Est tous là.
Bon, voilà. En tout cas, quand on parcourt votre dictionnaire, on se dit que vous êtes quand même assez pipi caca-prout, Nicolas.
Ah, mais c'est totalement assumé. Je ne suis jamais sorti du stade anal. J'y suis très heureux et je compte y rester pendant encore pas mal de temps. Je vous sais, j'ai passé 5 ans en pension. J'ai un côté potache. J'aimais faire des blagues au téléphone. J'aimais faire des canulars dans la rue. Et je fais partie. Alors, je sais pas si c'est le propre de ma génération, mais je me retrouve. Je retrouve cette sensibilité fécale, si je puis dire. Là, on va pas non plus développer. Mais c'est un humour qui m'a toujours. Ça me fait rigoler. Je veux dire, un paix dans un film, ça me fait rigoler. La soupe aux choux, ça me fait rire. Et c'est les scènes dans Dumb and Dumber me font pleurer de rire. Je montre ça à mes enfants. Ils sont en spirale. Il doit y avoir quand même quelque chose. Le mauvais goût, peut-être que ça passe dans les veines. Peut-être que c'est héréditaire. Mais voilà, c'est un humour qui compte. Alors, c'est peut-être un humour de garçon, mais
oui,
quoique.
C'est un humour de garçon et c'est un humour de gamin aussi, peut-être. Ah, mais vous êtes un garçon qui est resté un peu gamin, complètement gamin.
Je suis un épouvantable gamin qui bouffe des haribots, qui s'habille de toutes les couleurs, qui hurle de rire pour des choses tout à fait indécentes. Voilà, l'esprit de sérieux est une chose qui m'effraie. On peut être sérieux dans ce qu'on fait, faire les choses avec sérieux, comme j'ai fait ce dictionnaire, mais l'esprit de sérieux dans la vie, pour moi, c'est quelque chose qui me terrorise, qui me glace. C'est peut-être un problème, je n'arrive pas moi-même à me prendre au sérieux, ce qui fait que les gens non plus. Donc à la fin, à 48 ans, je me dis que ça me regarde un peu encore comme une espèce de lébrius, mais j'y peux rien, je suis comme ça. Donc, pipi, caca, prout, ça me fait toujours pleurer de rire.
Oui, vous aimez autant le paix que le contre-paix.
Vous avez tout compris, absolument.
Voilà. Oui, mais j'essaie de rentrer un petit peu dans votre façon de fonctionner. Le mauvais goût que vous aimez, il a aussi l'odeur du paix, justement. Vous écrivez, on ne va pas trop insister dessus, mais enfin, je voulais quand même citer la phrase. Un paix, c'est un cataclysme, une force de vie, la tempête des opéras baroques. Il y aurait donc une esthétique du paix.
Mais absolument, qui ne pète ni ne rote et voit l'explosion, aurait dit là-haut de ceux. Je veux dire... François Rabelais ne parle que de ça. Le paix se promène dans toute l'histoire de la littérature. Simplement, on n'en parle pas parfois de façon très frontale. Mais il est là, c'est là-bas, c'est ce qui nous unit tous. Nous sommes frères et sœurs dans le paix.
Alors j'avoue, Nicolas Destiendorf, parfois j'ai été un petit peu gêné quand même, mais je me suis beaucoup amusé en sautant d'une entrée à l'autre. Et je me suis dit que j'allais rédiger un petit texte mettant en scène un certain Nicolas dans un petit moment de vie quotidienne rythmé par quelques éléments que l'on retrouve dans votre dictionnaire avec le petit symbole pic qui indique que ce mauvais goût-là, eh bien, vous ne le défendez pas et qui vous donne même plutôt des boutons. Alors, je n'ai pas les prétentions littéraires qui sont les vôtres, je vous dis tout de suite, mais pour que les auditeurs qui n'ont pas encore lu le dictionnaire le comprennent, à chaque mot du dictionnaire dans le texte qu'on va entendre, il va y avoir ce petit bip. Alors ça se passe à Paris, à la mi-décembre, vous êtes prêts, on peut y aller ?
Je vous écoute et je suis enchanté.
Nicolas gara son 4x4 et traversa la rue. Il s'assit à la terrasse du café. À côté de lui, une femme botoxée lisait « Belle du Seigneur » d'Albert Cohen, en triturant son ombrelle à cocktail. Ses enfants jouaient à Candy Crush. Les fêtes de fin d'année approchaient, les marchés de Noël avaient ouvert, alors il commença à rédiger une carte de vœux en écriture inclusive. Dans moins de 2 mois, la Saint-Valentin. Du coup, il pensa à Valentine. Avait-elle déjà choisi sa robe de mariée? Il se demandait à quoi allait ressembler son neveu JF. Peut-être un pique-nique sur une pelouse? Avec des musiciens de rue? Il avait eu cette idée l'autre jour au salon de massage asiatique.
Bon, faut que je reprenne ma respiration.
Voilà, bon.
C'est parfait, j'adore ça.
Bon, alors j'aurais pu faire plus long, hein, mais enfin bon, il fallait quand même respecter les limites qui nous sont imparties. Alors on ne va pas revenir sur tous les éléments, mais sur quelques-uns quand même. Déjà, vous ne vous mettez pas au diapason des fêtes, hein, aussi bien les fêtes de fin d'année que la Saint-Valentin qui arrive très très vite. Visiblement, vous n'aimez pas suivre le troupeau, c'est ça? C'est une forme de snobisme, non?
Ah, oh, s'il faut, je me définis totalement snob, dans ce cas-là, j'ai aucun problème avec ça. C'est les fêtes obligatoires, c'est les fêtes à heure fixe, à instant fixe, les années, moi j'aime pas fêter mon anniversaire. Le 31, il n'y a rien de plus abstrait que de se dire, oh, dans une minute on s'embrasse parce qu'on passe d'une année à une autre. C'est abstrait, c'est simplement un problème de calendrier. J'aime bien la spontanéité dans le plaisir, comme dans la peine, si je puis dire. Voilà, la surprise. Là, le côté fête à heure fixe, à lieu fixe, et Noël, qui est une espèce de grand troc commercial. En fait, c'est tout le décorum très, très mercantile de tout ça m'ennuie. Et la Saint-Valentin, cette espèce de dégoulinement de guimauve, ça me parle peu. Voilà, ça m'a jamais inspiré. La sensibilité est une chose qui m'emmerde.
Bon, le 4x4, on pourrait se dire c'est l'écologie, mais en fait, non.
Oh non, pas du tout. C'est la vulgarité de ces grosses voitures. Et surtout ces gens très fiers de conduire ça avec le... Non, moi, c'est un pur... Je m'offusque d'un point de vue purement esthétique. Non, l'écologie tient vraiment peu de place,
oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Dans mon livre. Mais c'est assumé aussi.
Oui, là aussi. Mais alors, c'est très étonnant parce que vous faites une entrée 4x4 et vous faites aussi une entrée sur la 2 chevaux. Alors ça, moi, ça m'a scotché. Alors, le retour à la mode, en fait, de la dodoche, ça vous défrise.
Ce qui m'agace, c'est cette fausse authenticité qui emmène les gens. En fait, on voit des gens qui s'entassent à 5 ou 6 dans une 2 chevaux pour faire une promenade dans Paris. Ils sont totalement écrasés, ils sont très très mal, ils voient absolument rien, mais sous prétexte qu'ils sont en 2 chevaux, c'est du faux authentique. C'est le côté faux vintage, comme ce quartier du cours Saint-Émilion. C'est une espèce de Disneylandification du Paris populaire ou du Paris authentique. Voilà, c'est de la caricature de l'artifice. Voilà.
Ouais, cours Saint-Émilion, on est du côté de la très grande bibliothèque.
Mais de l'autre côté de la Seine.
De l'autre côté de la Seine, effectivement.
Merci.
Alors, puisque vous me tendez la perche, là encore quelques mots sur Paris, Nicolas Destiendorf. Vous consacrez une entrée à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Est-ce que pour vous, le mauvais goût est au pouvoir à l'Hôtel de Ville?
Pas le mauvais goût, je dirais le non-goût, une espèce de d'agout avec un alpha privatif, c'est-à-dire que c'est une sorte de neutralité esthétique. C'est ni beau ni laid, c'est un peu mochard, c'est ce que j'appelle l'esthétique ibistyle, c'est-à-dire qu'on change.
Référence à l'hôtel, à la fête d'hôtel.
Absolument, hein. Absolument. C'est-à-dire, c'est neutre, c'est un peu triste, tout est gris, avec ses travers de chemin de fer, ses plots jaunes, ça, c'est pas très grave, mais ça crée une espèce d'atmosphère de, un peu de laideur latente disons que ça sue l'ennui.
Bon, c'est vous qui êtes derrière le hashtag « Saccage Paris » ?
Non, pas du tout. Globalement, j'étais d'accord avec ce qu'il disait. Mais le problème d'Anne Hidalgo, c'est que son combat est juste. Je vois ce qu'elle veut faire, mais c'est une façon de la méthode est un tout petit peu trop agressive et même pas haineuse, mais hargneuse.
Bon,
voilà.
C'est la seule politique que vous épinglez dans vos pages.
Et ça n'est pas de ma part un point de vue politique, c'est un point de vue de Parisien qui... Oh non, je ne fais jamais de politique, je m'en garde de bien. Voilà, comme disait Paul Morand, qui lui en avait bien souffert, la politique et la vérole des écrivains. Surtout pas s'en mêler quand on est homme de plume. Je pense, dans mon cas en tout cas. Non, ça je ne pense pas assez profond pour ça.
Alors, les débats sur l'empreinte des années Pompidou à Paris, les voies sur berge, Beaubourg, la tour Montparnasse, c'est pas très original. Vous n'êtes pas le premier à critiquer ça. Ce qui l'est peut-être davantage, Nicolas Destiendorf, c'est que vous consacrez une entrée dans ce dictionnaire du mauvais goût au musée du Louvre. Alors là, vous attaquez une idole incroyable, quoi. Vous nous expliquez ?
Alors, le musée du Louvre, c'est-à-dire que, bon, d'abord, il y a une espèce de nostalgie un peu à la Blake et Mortimer, des musées un petit peu mystérieux, le côté Belphégor. Quand j'étais petit, j'allais au Louvre, qui était un musée un peu mystérieux. On ne savait pas où était l'entrée. Il fallait trouver la petite entrée sous les guichets. Il n'y avait personne. Ça avait un côté pas élitiste, mais une sorte de désert culturel où en fait on avait les œuvres pour soi. Le côté, moi, c'est le côté grand môle du tout culturel avec un grand K que j'aime pas. C'est ce que je dis. On rentre dans le Louvre, on peut d'un coup à gauche on a la Joconde, à droite on a des enceintes Bose où on peut manger un boboon dans une espèce de restaurant multiculturel. Voilà, c'est le mélange de tout que j'aime pas beaucoup. Et le fait que maintenant tout soit inféodé à une espèce de système de réserve par Internet. Avant, on passait dans le Louvre, on disait, tiens, si j'allais voir la Victoire de Samothrace, on rentrait maintenant. Il faut avoir sur une appli de téléphone tout enregistré. En fait, c'est uniquement réservé à des touristes qui n'ont que ça à faire de leur journée parce qu'ils sont venus à Paris pour aller au musée. Et c'est ce que je dis d'ailleurs, je dis, il devrait y avoir comme en Inde, deux entrées. Une entrée pour les indigènes, c'est-à-dire nous, Parisiens, avec un musée qui est quand même payé avec nos deniers et avec un tarif réservé à nous. Et puis, les gens qui viennent, touristes, qui est bien, passer une semaine à Paris et qui donc, voilà, ont le temps, peuvent se permettre de réserver en avance. Bon, c'est des petites râleries de Parisiens agacés, mais voilà, j'habite à côté du Louvre, parfois je rentre, je me dis, tiens, si j'allais faire un saut, ben non, je peux pas, parce que ça me demande quasiment une demi-journée pour valider une réservation.
Bon, voilà. Vous n'êtes pas très écolo-bobo, on l'a compris, hein.
Du tout.
Voilà, vous vous sentez pas un petit peu extraterrestre, justement, dans la jungle parisienne?
Oh, bon, écoute, si, ça fait tellement longtemps que je suis comme ça que je me rends plus compte. Et puis les gens me prennent pour ce que je suis. Mais extraterrestre, si, j'aime bien l'idée d'être extraterrestre. Ça ne me dérange pas du tout.
Comme dans la Toupe aux Choux aussi. Pour
exactement. Pour, non.
Voilà. Toujours. Alors, le Salon du Livre, quand même, vous qui êtes écrivain, Nicolas Stiendorf, écrivain primé, en plus, en quoi est-il de mauvais goût, ce Salon du Livre? Il s'appelle Livre Paris.
Livre Paris. Non, en fait, c'est cette espèce de côté systématique. En fait, le principe de ces... J'y suis allé, j'adore parce que j'ai tous mes copains, éditeurs et tout ça, mais c'est le principe d'aller s'asseoir derrière une table et d'attendre que le chaland vienne vous prendre votre bouquin. Ils vous regardent, en fait, ils viennent vous toucher comme si vous étiez une espèce d'objet. Ils viennent toucher aussi bien le livre que l'auteur. Ils vous regardent, ils vous tiennent une demi-heure, ils posent des questions sur le livre, puis à la fin, ils disent « Ah bah, il faut que j'y aille », ce genre de choses. Et effectivement, à la table à côté, il y a une jeune youtubeuse ou je ne sais quelle instagrammeuse de qualité qui a 400 personnes et qui signe des livres dont elle a sans doute découvert le texte le jour du service de presse, bien entendu. Donc voilà, donc ça, c'est des petites humiliations aussi d'un auteur qui passe beaucoup de temps à écrire. Mais ça, voilà, je vous dis, tout ça est parfaitement subjectif et d'une partialité totale.
Alors, à propos de littérature, justement, vous vous en prenez à Belle du Seigneur d'Albert Cohen, livre que beaucoup pensent et placent très souvent sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, dans beaucoup d'émissions, y compris de radio, y compris la nôtre. Beaucoup de lecteurs placent ce livre en tête des lectures marquantes, voire fondatrices aussi. Qu'est-ce que vous lui reprochez à cette pauvre Belle du
D'abord,
Seigneur?
D'abord, ce que je lui reproche, c'est sans doute de l'avoir adoré quand j'avais 19 ans, ce que je dis dans le texte. Et c'est-à-dire que pour certaines personnes, c'est l'acmé, c'est comme le baccalauréat, quand on a son bac, on va pas plus loin pour certaines personnes. On a vu Belle du Seigneur, c'est bon, maintenant on a lu un grand livre, on peut s'arrêter là. Et c'est un peu, et on l'exhibe dans ce que j'ai dans son étagère IKEA, et la demoiselle est très contente, à côté des bougies parfumées et du thé à la rose, elle a son Belle du Seigneur, elle aura lu son 8 livres de 800 pages, et là elle est bonne jusqu'à la retraite, jusqu'à la maison de retraite, ou peut-être elle pourra le reprendre. Voilà, c'est le côté un peu définitif de Belle du Seigneur, et surtout, j'ai lu tous les livres d'Albert Cohen, j'ai lu le Belle du Seigneur après, et moi j'ai une préférence pour Solal, pour les livres précédents. Aussi, là, c'est du pur jugement littéraire et partial. Mais... Et puis, j'avais essayé de relire Belle du Seigneur et ça m'est tombé des mains. J'ai trouvé ça extrêmement pâteux, un peu guimauveux. J'avais l'impression que j'avais une sorte de crème chantilly qui m'échappait des doigts. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris à l'époque? Mais je crois qu'il y a des lectures qui devraient rester circonscrites à l'âge dans lequel on tombe dedans.
Chérie, tu me donnes ta passion et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment. Je suis plutôt super amant. Aujourd'hui tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi. Le tourment d'amour est un petit gâteau qu'on peut trouver au Sainte. Avec mon tourment d'amour chéri, tu peux tomber enceinte. Le tourment d'amour est un sympathique gâteau à base de farine et de noix de coco. Mon tourment d'amour est un méchant gâteau à base de muscles et de spermato.
Si tu vas au Sainte,
n'oublie pas de demander
le tourment d'amour.
Sans tourment d'amour, dialogue dessous. Allez, ça glisse.
Je sens tes groseilles.
Alice, ça glisse.
Au pays des merveilles.
Bravo.
Oui, 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 oui.
Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi?
Oui, 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 oui.
Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi?
Oui, 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 oui.
Je vais te le donner, oui, 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 oui. Tu veux mon zizi?
Oui, 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 oui.
Alors, il faut reconnaître qu'il a bien du mal à rester assis, hein, Nicolas Destiendorf. Dans ce studio, vous avez évidemment reconnu Francky Vincent, qui, faut-il le rappeler, a été fait chevalier des arts et des lettres par la ministre de la Culture à l'automne dernier. Alors, certains s'en sont indignés. Vous avez applaudi?
Écoutez, d'abord, je trouve ça très sympathique, très drôle. Il y a tellement de gens dont on découvre l'existence quand ils le reçoivent et qui eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi ils ont reçu cette décoration. Au moins, Francky, ça avait une raison d'être, c'est drôle. Et pour une fois, ça fait plein de gens qui parlent de l'ordre des arts et lettres, qui n'a pas forcément toujours le devant des chroniques. En revanche, je suis un peu déçu parce que le pot pourri était bien, mais vous avez oublié ce qui, pour moi, est une des chansons fondatrices, qui est Tu pues du cul, quand même, ça manquait.
Oui,
mais
oui.
Ou Cacapoule. Mais voilà, vous voulez
parfois sortir un petit peu de la même thématique quand même. On a passé Gidré tout à l'heure.
Ah oui.
Hein, il faut être un peu varié quand même.
Ah ouais,
hein.
C'est vrai que tu vois mon zizi, ça change. ça remonte le niveau.
Alors, sans transition, quoique, hommage aussi dans votre dictionnaire à Pierre Louis, dont les poèmes érotiques en alexandrin sont à la fois, comme vous l'écrivez, des monuments d'humour et d'obscénité. Vous racontez une histoire assez, assez personnelle, une soirée chez des amis de la famille où vous avez fait sensation.
Alors j'avais 22-23 ans, j'étais dans le sud chez mon père, il y avait un déjeuner de famille, enfin, chez des amis à côté, on était genre une quinzaine à table, et puis à un moment tout le monde se met un peu à réciter des poèmes en se souvenant, ils étaient tous plus âgés que moi, à l'époque ils avaient appris le lac, ils avaient appris l'albatros, et chacun se levait l'un après l'autre, et moi j'étais un peu le parisien, soi-disant un télo en bout de table. Il me disait, bon, Nicolas, t'as rien à nous dire. Et finalement, j'ai fini par me lever un peu. Je déteste ce genre de choses, j'aime pas parler en public. Et donc, j'ai cherché dans la mémoire, j'avais un petit poème de Pierre Louis qui disait,
attendez, on va pas dire n'importe quoi,
dire.
Attention, oula, on va devoir mettre des bips là, Nicolas Descendor.
Alors,
allez-y.
Je n'aime pas avoir, après sa fausse couche, la femme au sein gonflé qui dit en rougissant, si vous m'aimez encore, faites-le dans ma bouche, je ne peux plus baiser, ma matrice descend. Et alors là, silence. Déjà, ils comprenaient à peu près pas ce que ça voulait dire. Et ensuite, ils ont commencé à comprendre. Tout le monde a rougi, les gens se sont assis, il y a eu un long silence. Et chacun est rentré chez soi.
L'érotisme est très présent dans ce dictionnaire, Nicolas Destiendorf, en particulier quand vous évoquez le cinéma, Buñuel, par exemple. Alors, très beau cinéaste, Buñuel.
Je parle surtout d'un de mes films cultes.
Le Fantôme de la Liberté.
Fantôme de la Liberté, un film qui est sorti, c'est drôle, le mercredi 11 septembre 1974, j'avais un jour, voilà, donc symboliquement. Et
oui,
avec
c'est un signe,
avec une scène qui m'a toujours fasciné, qui est cette scène où Michel Lonsdal se fait fouetter devant des moines dans une chambre d'hôtel perdue au fin fond du Perche, en criant « Allez, frappe, vieille pute !» Et les moines s'échappent et ils disent « Non, non, restez, que les moines restent au moins !» Voilà, ça m'a fasciné. Et pendant des années, juste la locution « Allez, frappe, vieille pute !» était sur mon répondeur automatique. C'est-à-dire que les gens qui appelaient chez moi n'entendaient que cette chose. Et ensuite, il y avait le bip, il fallait laisser un message.
Alors, vous parlez aussi du Caligula de Tinto Brass, que je conseille à nos auditeurs d'aller visionner. Et puis, évidemment, dans le dictionnaire « Amoureux du mauvais goût », il y a ceci.
Départ à destination de Bangkok. Vol Air France 428, embarquement immédiat, porte numéro 37, Emmanuel. C'était un livre, c'est devenu un film, Emmanuel. Si ce titre n'évoque rien pour vous, si vous ne voyez aucun rapport entre Emmanuel et un avion qui part pour Bangkok, demandez à vos amis, ils vous expliqueront. Emmanuel, la plus longue caresse du cinéma français.
Alors, je demande à celui qui est en face de moi, expliquez-nous, Nicolas Destiendorf.
Emmanuel, donc le film de Jules Jacquin, inspiré du roman d'Emmanuel Arsan, avec Sylvia Christel, la belle Sylvia Christel.
Et le fameux fauteuil en rotin.
Et le fameux fauteuil en rotin, qui a quand même été le seul film qui soit resté, je me semble, 13 ou 14 ans, en première exclusivité sur les Champs-Élysées. Et quand on le revoit aujourd'hui, c'est un film d'une naïveté, d'une neutralité. C'est-à-dire qu'on voit tellement plus en 3 secondes sur Internet, sur l'Instagram, l'Instagram ou le TikTok de nos enfants, c'est effrayant. Et c'est un sommet de ridicule, d'un machisme. Alors là, je veux dire, il y a du MeToo quasiment à chaque plan. Et surtout, il y a Alain Cuny, perdu là-dedans. Donc le grand acteur claudélien qui récite des textes d'une obscénité complète en parlant comme ça, comme si il disait « tête d'or » ou « et c'est, tu prendras une femme, sa verge » et tout ça. Donc c'est un film à voir comme un documentaire de ce qu'était la sensibilité esthétique et érotique de la France de l'immédiat après 68. Et ensuite, on est vraiment passé à autre chose.
Vous voulez aussi réhabiliter Jean-Claude Brissot, Nicolas Dessendorff, Noce Blanche. Alors, on a beaucoup parlé de lui il y a quelques années.
J'ai cité Jean-Claude Brissot parce que, voilà, comme je cite d'autres auteurs qui, en fait, ont mauvaise presse pour des raisons personnelles, Jean-Claude Brissot, pour moi, est vraiment un des plus grands cinéastes français de la fin du XXe siècle, qui a eu des problèmes de mœurs. Et il a eu vraiment des.
Enfin, voilà, il a été condamné.
Il a été condamné. Il s'est très, très mal comporté avec des comédiennes. Mais il a fait, pour moi, certains des plus beaux films. Noce Blanche, surtout Céline, qui est un film sur la mystique et la grâce admirable. Et c'est un nom qui est presque blacklisté, presque cancellé. Et je trouvais. C'était ne serait-ce que pour parler de lui, parce qu'il n'y a aucune once, si je puis dire, de mauvais goût dans son œuvre, mais son nom est synonyme dans l'esprit de gens de mauvais goût.
Bon, vous n'allez pas vous faire que des amis avec ce dictionnaire, mais ça, vous le savez.
C'est ça qui est amusant.
D'ailleurs, pour enfoncer le clou, vous affichez même une quasi-commisération envers Dieudonné.
Alors, Dieudonné, c'est plus compliqué que ça.
C'est un immense gâchis.
Ah, pour moi, c'est le gâchis. J'ai revu encore certains films avec lui. Regardez dans le Derrière de Valérie Lemercier, où il joue le rôle d'un proctologue époux de Claude Rich. Il est absolument merveilleux. Je pense que c'était un des comédiens les plus doués de sa génération. Hein. Il en fait une sorte de comédien naturel avec une présence, même présence physique étonnante. Et le type a totalement vrillé, est devenu fou, paranoïaque, haineux. Voilà, il a enfoncé toutes les portes, les pires qu'on pouvait enfoncer. Et pour moi, c'est un des grands, grands gâchis parce que ses sketchs étaient parmi les plus drôles et les mieux écrits de toute sa génération. Et je ne l'ai jamais vu mauvais dans un film, que ce soit un bon film ou un navet. Et qu'il se soit à ce point sabordé, à ce point, disons, suicidé intellectuellement, politiquement, esthétiquement, c'est vraiment dommage.
À l'inverse, vous vous attaquez à un sacré totem du cinéma français qui fait en plus partie des personnalités préférées des Français de sondage en sondage. Omar Sy. En quoi Omar Sy serait-il de mauvais goût ?
Pour moi, Omar Sy, c'est presque le contraire de Dieudonné. C'est-à-dire pour Omar Sy, c'est rien. C'est terrible. C'est-à-dire que c'est une espèce de c'est-à-dire, c'est un acteur très sympathique, mais
c'est un bon acteur.
Il est sympathique, c'est-à-dire qu'il joue de la même manière dans absolument tous les rôles. Il était formidable dans Intouchables. Dans les films de Toledano Lacache, il est très bien. Quand il joue le rôle d'une espèce de bon gars débonnaire et sympathique, mais quand il commence à jouer des rôles de compétition, c'est plus un comédien. Il continue à jouer Omar Sy. Donc il n'y a pas de subtilité dramaturgique. Quand il joue Knock, ça ne va pas du tout.
Vous ne l'aimez pas, mais en quoi est-ce qu'on peut considérer qu'il est de mauvais goût? Pourquoi avait-il sa place dans votre dictionnaire ?
Alors, c'est compliqué à développer. Ça demanderait, je pense, un sujet de thèse. C'est une espèce de neutralité qui devient le goût ambiant. C'est-à-dire que ça devient une espèce de comédien passe-partout qu'on sort à toutes les sauces. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que ce n'est, en fait, c'est pas un comédien. C'est une nature. C'est un type sympa. Et c'est pas parce qu'il est bon comédien qu'on le voit dans les films. C'est parce qu'il est sympathique. Et effectivement, je suis sûr que c'est délicieux de passer une heure avec lui. Ses interviews sont toujours charmantes. On a envie de lui taper dans le dos et de boire un coup avec lui. Mais pas forcément de le voir dans un rôle qu'ont illustré Jouvet et Fabrice Luchini. Voilà.
Un petit loriston, que lui donnerez-vous, vous, vous ?
Un petit loriston, que lui donnerez-vous ?
Un sac de caca jaune pour lui faire plaisir. Au gué,
au gué, au gué, au gué, le joli loriston tonton.
Élève la bêlure. Vous êtes premier en histoire de France. Eh bien, parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez 10. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur.
Il disait la seule chose qui me plaît,
c'est de travailler dans la saucisse, c'est de boulonner dans le boudin gras.
travailler dans le port, c'était son vice. Faire des chapelets de chipolatas, mettre la choucroute dans la saumure, faire des beaux dessins dans le sein doux, rouler les pieds dans la chapelure et couper le jambon en petits bouts.
Le samedi, ma femme Germaine me dit tu vas prendre un bain. Ça fait bien plus de 8 semaines que tu t'es pas lavé les mains. Elle me prépare une bassine avec de l'eau chaude dedans. Et moi nu dans la cuisine, je lui chante en rigolant. Et blanc, passe-moi l'éponge. Et blanc, fais-moi guigui.
Je me suis trouvé une petite technique.
Et un,
je retire le bouchon.
Et deux,
je mets un petit glaçon.
Et trois,
je verse la boisson.
Et quatre,
je me rince le siphon.
La
Boris Vian et les quatre barbus, Georgius, Fernand Reynaud, Pete Eric et à l'instant les Charlots, hein, quelques-uns des interprètes des chansons comiques auxquelles vous rendez hommage et que vous évoquez dans votre dictionnaire amoureux du mauvais goût, publié, je rappelle, chez Plon, Nicolas Destiendorf, avec donc ce petit identifiant en forme de cœur qui indique que c'est le mauvais goût que vous appréciez. Pour vous, il faut réhabiliter, voire remettre à la mode la chanson comique.
Moi, j'ai toujours une passion. En fait, j'ai eu une enfance un peu étrange où j'ai un père qui me nourrissait de ça. C'est-à-dire que à l'époque où mes petits camarades écoutaient ce qu'on écoutait dans les années 80, ils écoutaient AA ou ce genre de choses. Moi, je n'écoutais pas de musique. Ça m'intéressait pas. Mais mon père me faisait des cassettes avec Georgius, Fernand Reynaud, Georges Milton, Ray Ventura, Tino Rossi, tous ces gens-là, la chanson d'avant-guerre, la chanson à texte, Bourville, la chanson comique. Et donc, j'ai grandi avec ça. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est un peu le parent pauvre de ce qu'est devenu la chanson. À un moment, la chanson s'est prise au sérieux. Jusqu'à il y a encore une trentaine d'années, on avait même des stars de la télé qui enregistraient des chansons. Même, je veux dire, Garcimore enregistrait une chanson, Denise Grain enregistrait des chansons. On se retrouve maintenant sur le site Bidet Musique et ça a totalement disparu. Sont arrivés les chanteurs à voix, tous les radios, les télécrochets, ce genre de choses. Et la chanson s'est mise à péter plus haut que ses notes, à se prendre beaucoup plus au sérieux. Et c'est un peu dommage parce que ça, c'est une tradition qui est la tradition en fait du café-concert, du music-hall, des fantaisistes. Et une époque aussi où les comédiens savaient pousser la chansonnette. Maintenant, il y a soit les comédiens, soit les comiques, soit les chanteurs. Il y avait une interpénétration et des genres et des disciplines qui étaient beaucoup plus souples. Et en fait, il y avait beaucoup plus de dialogue entre les différentes disciplines artistiques.
Alors, vous rendez hommage à de très nombreux humoristes, Daniel Prévost, Francis Blanche, Jean-Yves Lafesse et ses canulars téléphoniques, le professeur Choron, Jean-Yann, plus près de nous, Michael Youn. Ces figures-là, donc, ce sont un peu des ambassadeurs de ce qu'on pourrait appeler l'humour potache, même s'il n'y a pas que ça.
Bien sûr.
Bon, les chansons paillardes, la gauloiserie, en fait, le mauvais goût que vous aimez, Nicolas Destiendorf, c'est la France.
C'est la France.
La franchouillardise, oui.
C'est la franchouillardise et la saine provocation. Moi, je suis de l'école Rakiri, de l'école Choron. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de liberté, je pense, que quand on regarde les Rakiri et les Charlie Hebdo de la grande époque. C'est-à-dire que ça tirait de tous les côtés avec une violence. C'est l'espèce de saine libération des années 60-70 où tout était possible dès l'instant que c'était fait avec humour et avec un certain brio, que ce soit Choron, Cavana, Volinsky, GB, Delfeuille de Thon, Rezer, tout ça. Ensuite, ça s'est un peu refermé. Maintenant, on s'interdit de dire beaucoup de choses. Il y avait en fait une libération générale qui était très, très saine et qui, moi, je trouvais revigorante. En fait, j'ai grandi là-dedans. C'est un dictionnaire nostalgique, de toute façon. Donc, ce sont des souvenirs de revues qui étaient cachées sous le lit de mon père et c'était les romans photo de Choron, d'une obscénité absolument délicieuse et révoltante qui, moi m'enchantait, explosait mon imaginaire et me faisait rêver.
À propos de nostalgie. Bon, vous avez reconnu la musique, Nicolas
Dessendorf. Bénil.
Bon, un des grands plaisirs des dimanches de votre enfance.
Absolument, Bénil. Le dimanche soir, à l'heure où sur les chaînes principales, il y avait les actualités, il y avait Bénil sur la 3. Et je regardais ça, en fait, avec un mélange de fascination et d'ennui, parce que c'était assez ennuyeux, c'était toujours la même chose.
C'était très répétitif. Avec ses courses-poursuites, ces jeunes filles habillées très, très légèrement.
Voilà, la voix géniale de Roger Carrel qui double à peu près tous les personnages. Et apparemment, on m'a appris ensuite qu'en fait, c'était remonté pour le public français et qu'en fait, je ne l'ai jamais entendu la version originale du Bénil anglais, parce que quand même, c'est quelque chose qui était presque contemporain des Monty Python, à peu de choses près, et c'était fait aussi par la télé anglaise. Mais ça m'a toujours laissé à la fois fasciné et un peu déconcerté, mais qu'un type ait eu le droit pendant autant d'années de faire des choses aussi débiles, aussi laides, aussi creuses, et en fait pas drôle du tout.
Alors de grande écoute en plus, les enfants étaient devant la télévision à ce moment-là.
Il a bénéficié d'une impunité à la fois morale et esthétique absolument sidérante pendant beaucoup d'années. Donc rien que pour ça, il mérite d'être dans le dictionnaire.
Alors ce dictionnaire amoureux du mauvais goût, Fleur, vous le disiez vous-même, la nostalgie. Bon, vous êtes nostalgique ou vous êtes un petit peu réac, Nicolas Dessendorf?
Oh bon, sans doute un peu les deux. On me dit que je suis réac, je l'assume totalement. J'ai une espèce peut-être de vieille nostalgie, de la France des clochers, je ne sais pas. Mais la nostalgie, c'est là-dedans d'abord que je puise mon imaginaire romanesque. J'aime le roman historique. Je pars du principe que je suis né trop tard. J'étais sans doute fait pour naître soit sous le Second Empire, soit peut-être dans l'entre-deux-guerres, qui sont des périodes qui me fascinent et m'effrayent pour les deux. J'aurais voulu connaître l'atmosphère de ces périodes-là. Je pense, l'un et l'autre, et c'est totalement assumé. Avec le nom que je porte, avec le pedigree qui est le mien, j'y peux rien, je suis comme ça, et c'est totalement assumé.
Il y a en tout cas une dimension très novatrice, je trouve, dans ce dictionnaire. Il y a deux entrées, avec une demi-page blanche, pour deux entrées qui concernent deux chanteuses, là pour le coup, on ne peut plus contemporaines, très actuelles, qui remportent un vrai succès commercial, Iseult et Aya Nakamura. Alors, vous n'avez rien écrit à ces deux entrées, à part la mention « libre propos ». Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, je vais vous faire une petite confidence, cher ami. En fait, j'avais trouvé toute une série de citations extrêmement amusantes et parfaitement presque imbitables de l'une et de l'autre. L'une, c'était beaucoup d'extraits de ses chansons qui sont, disons, syntaxiquement assez originales. Et l'autre, c'était des phrases de Madame Iseult qui parlait de son regard sur le monde. Et ça, c'était assez rigolo. Et c'était cocasse et ça avait tout à fait sa place dans le dictionnaire. Mais le livre a été relu par le service juridique de la Maison Plan qui a dit « Ah, tout passe, mais là, ces deux-là, on va se prendre à peu près toutes les maisons de disques et leurs services juridiques sur le dos, donc il vaut mieux gommer ». J'ai dit « Dans ce cas-là, ça va changer toute la mise en page ». Et donc, on a décidé de laisser en blanc, ce qui fait que c'est une sorte de petite… C'est la pochette surprise, c'est-à-dire que c'est l'énigme du livre. Qu'est-ce qu'elles ont dit, qu'est-ce qu'elles n'ont pas dit? Allez chercher sur Internet, vous trouverez.
Eh bien, vous savez quoi? Vous allez boire le calice jusqu'à la ligne. Nicolas Dessendorf, on va se quitter avec le dernier titre d'Aya Nakamura. Comme ça, chacun pourra se faire son idée parmi nos auditrices et nos auditeurs. Ça s'appelle SMS, et le mot SMS figure d'ailleurs dans votre dictionnaire.
Absolument.
C'est toi qui m'as dit que t'avais du temps. Sans moi tu pouvais aller nulle part. Mais je crois qu'au final tu mentais. Évidemment je t'ai écouté. Je peux pas faire semblant de nier les faits, en vrai je suis dedans. Quand j'entends ta voix j'avoue je fonds. C'est peut-être ça le problème. Juste un SMS. Sans lui j'ai essayé. Bébé je veux juste réessayer. Sans toi j'ai essayé. Semblant de m'ignorer. Mais moi je voulais pas tout ça. Tout ça. C'est tout le tout pour rien. Je veux tout savoir de toi. Je veux tout le tout de toi. Tu veux tout savoir de moi. Je peux pas faire semblant de nier les faits, en vrai je suis dedans. Quand j'entends ta voix j'avoue je fonds. C'est peut-être ça. Juste un SMS, sans lui j'ai essayé. Bébé je veux juste réessayer. Sans toi j'ai essayé.
SMS Aya Nakamura sur RFI. Merci Nicolas Destendorf. Je rappelle que votre dictionnaire amoureux du mauvais goût est paru chez Plon.
Merci beaucoup.
Allez, on part à présent à Niamey au Niger, où se tient depuis le 25 janvier un festival international de comédie et d'humour organisé par de jeunes comédiens nigériens. Une rencontre culturelle qui commence à drainer des foules. Sur place à Niamey, notre correspondant Fabien Essien.
Le hier qu'on a entendu là, depuis qu'on a commencé le spectacle, on n'a jamais applaudi comme ça.
Quartier populaire de Gamkale, en début de soirée. Une foule de badauds regarde, sceptique, un groupe de jeunes humoristes. Que font-ils là? Les passants s'interrogent. Au cœur de la capitale nigérienne Niamey, près d'une trentaine d'artistes humoristes se font la passe. Objectif, détendre une atmosphère pas toujours paisible. Et pour cause, Maman Hiro Abdelaziz.
Nous avons décidé de faire rire les Nigériens, nous les gens de la rue publique.
Vous dites bien rue publique?
À ne pas confondre avec rue publique. L'idée était partie de mon deuxième one-man show intitulé « À la présidence de la rue publique » qui m'a donné déjà le nom du président de la rue publique.
Le festival Rire à Niamey bat son plein dans la première ville du pays. Loin de là, il se tient la conférence sur la stabilisation du bassin du lac Tchad. L'establishment politique de la sous-région est donc réuni. Et c'est dans ce contexte que comédie et débat sérieux se côtoient. Maman Hiro Abdelaziz est le promoteur de ces rencontres humoristiques.
C'est vraiment important pour les jeunes de rire en ces moments. Et surtout avec cette question d'insécurité. Et pour nous, l'idée était d'utiliser ces liens de parenté à plaisanterie comme outil de réconciliation, de paix, de cohésion sociale. Du coup, les humoristes sont beaucoup plus encouragés à utiliser la parenté à plaisanterie dans leurs blagues afin de montrer aux gens que ouais, nous sommes tous les mêmes.
Le Festival international d'humour Rire à Niamey, qui en est à sa 5e édition, est né avec pour ambition de permettre aux jeunes Nigériens de s'intéresser à l'humour. Et plusieurs thèmes y sont évoqués.
Nous abordons le vivre ensemble, qui est déjà la base, la parenté à plaisanterie. Nous parlons beaucoup de famille, le lien, le mariage ou bien l'éducation que nous donnons à nos familles. On n'impose pas aux humoristes des thèmes à traiter. Ils nous proposent et nous on juge qu'est-ce qui peut être présenté au public.
Donc la fille observe le gars, elle aussi, elle se dit, toi tu vas voir qui je suis. Les filles ont cette phase là-dedans, elle se met dans cette position.
Mais au milieu des préoccupations quotidiennes, ce groupe de comédiens détend l'atmosphère. L'humour joue sans aucun doute un rôle sociétal important. Et Abdelaziz croit dur comme fer à un avenir radieux pour l'humour nigérien.
Je dois avouer que de 2017 à 2018, ça n'a pas été du tout facile. C'était beaucoup de spectacles gratuits tous les mois. Et à l'époque, on avait un espace qui s'appelait Galerie Toedo, créé par un artiste qui nous soutenait à faire les spectacles gratuitement. Et à partir de 2019 à maintenant, je peux dire que ça évolue beaucoup. Aujourd'hui, je peux même me permettre de dire que le Niger commence à se faire valoir sur le plan humoristique partout. Aujourd'hui, si au Niger, on peut vendre un spectacle d'humour, le ticket à 10 000 francs, je pense que ça va. L'idée pour nous d'ici 2025, c'est d'en faire un marché d'humour ouest-africain.
La même joie que chez nous, hein? Oui. Des gens, quand ils sortent le matin, ils viennent. Papa va au boulot.
Fabien Essienne dans VMDN sur RFI. Dans un instant, le journal. Demain, nous recevrons le prix Nobel de littérature 2008, Jean-Marie Gustave Leclésio. Il publie chez Gallimard son nouveau livre, Avert, des nouvelles des indésirables. Et vous m'en direz des nouvelles.